Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Peu importe le pays dans lequel vous vous situez, mesdames, messieurs, que vous soyez dans le nôtre, au Canada ou ailleurs dans le monde, parce que la magie maintenant de la radio, c'est de nous transporter aux quatre coins du globe, n'est-ce pas, Sébastien? C'est vrai, hein, on peut aller.
Absolument, absolument, la magie.
C'est ça, hein, la magie de la radio. Jadis, on parlait de la magie des ondes, mais maintenant, on peut parler de même la magie des internets.
Oui.
Et c'est ça, ben, ça nous permet de nous transporter aux quatre coins du monde, peu importe le pays où vous nous écoutez. Écoutez, salut Sébastien Boucher, comment vas-tu?
Ça va vraiment bien, content de te retrouver. Encore des sujets palpitants, je pense bien, là, à cette émission aujourd'hui. On va avoir du plaisir et de l'information en vrac.
Ben c'est ça, écoute, hein, ça s'appelle « peut contenir des infos », donc il faut avoir un minimum d'infos, c'est un peu le but, hein, c'est ça?
Un minimum, un tout petit peu.
Je veux qu'on revienne un petit peu sur ton affaire de rêve éveillé. On a parlé la semaine passée, quelqu'un qui nous a écrit, c'est Michel Savoie, il est au Nouveau-Brunswick, puis il dit qu'il a écouté notre émission, on parlait justement de compost et de rêve. Il dit, et là c'est un conseil qu'il m'adresse à moi pour pouvoir se souvenir de nos rêves, de faire des rêves éveillés.
Ah oui, ou... faire des rêves lucides.
Oui, des rêves lucides, c'est ça, les rêves lucides. Alors il dit de s'asseoir confortablement dans une chaise, et comme pour prendre un somme de l'après-midi, on va dire un lazy boy par exemple, un fauteuil confortable, et c'est assez confortable, les e-boys, oui. On s'entend. Et puis, on s'assoit et on met entre son pouce et son index une pièce de monnaie. Et quand on commence, parce que là, on s'assoupit là, tranquillement, pas vite, et quand on dort, ben la pièce de monnaie va tomber sur notre estomac. Et c'est de cette façon-là qu'on va se réveiller. Apparemment, on va se rappeler du début de notre rêve, ce qui est assez extraordinaire. Et ça a l'air que pour faire des rêves lucides, c'est quelque chose qui fonctionne comme truc.
Ben oui, ça se peut très bien. Ben c'est sûr que l'idéal, comme c'est Monsieur Savoie qui nous a écrit.
Oui, c'est ça, c'est Michel Savoie. Ouais.
Michel Savoie, ben comme il disait, c'est vraiment l'après-midi, le moment idéal pour pratiquer les rêves lucides. Là, ça fonctionne très bien. Et moi, c'est toujours en après-midi que j'ai fait mes plus beaux, mes plus contrôlés. C'est plus difficile, comme on disait, de se réveiller à 4 heures du matin, de quand il nous reste 2 heures à dormir ou quelque chose, puis de repartir. Mais en après-midi, c'est l'idéal. Le truc de la pièce, je l'ai jamais essayé, mais s'il dit que ça fonctionne, c'est parce qu'il doit l'avoir essayé. Donc n'importe quel petit truc comme ça pour nous réveiller, prendre en note les rêves aussi, ça fonctionne. Alors, j'espère qu'il y en a d'autres qui ont essayé.
Je ne sais pas quel grand homme politique. Je pense que c'est un président américain. Il faudrait que je fouille un petit peu là, sur l'Internet. Je me souviens avoir lu un autre truc. C'est quelqu'un qui faisait des sommes comme ça dans la journée avec une cuillère dans la main.
Okay.
Puis tu laisses pendre tes bras des deux côtés de la chaise là, ou du fauteuil, évidemment, quand tu es suffisamment assoupi pour presque être sur le bord de t'endormir, on va dire. Ben, du coup, quand la cuillère tombe, c'est ça, exactement. Quand la cuillère tombe par terre, ben ça t'aide à te réveiller. Donc, ça peut être un autre truc à essayer. Il faudrait que je trouve qu'il faisait ça. On a de gros sujets, de bons sujets aujourd'hui à aborder. Et on va tantôt, entre autres, recevoir le président de l'Alliance des radios communautaires du Canada, Gary Ouellet. On va avoir une entrevue avec lui dans le deuxième bloc, donc dans le bloc du quart d'heure. Parce que les radios communautaires du Canada se sont réunis du côté de Québec au cours des derniers jours pour un événement qui s'appelle les Jours de la radio où ça discutait de radio. Puis là, on s'est interrogé, on s'est demandé c'est quoi l'avenir de la radio communautaire à travers le pays. Alors, on va jaser de ça avec Gary Ouellet. Il est le directeur général de la radio Sommet FM au Nouveau-Brunswick. Il est aussi le président de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Toi aussi, tu as de gros sujets, mon cher ami. Tu as de beaux sujets aussi à aborder, Sébastien.
Bon, on va essayer de s'en faire une habitude. On va essayer d'arriver avec des sujets le plus intéressants possible. Ben, aujourd'hui, là, pour faire suite à... Tu te rappelles, j'avais parlé de l'espérance de vie des chiens et selon les races. Mais là, aujourd'hui, je vais aller du côté des chats parce que moi-même, je viens de perdre là, tout récemment mon chat qui était âgé de 13 ans. Puis je voulais regarder ça un peu. Puis la vraie façon de compter les âges humains pour les chats. Tu sais, on disait que c'était x7. On va revenir là-dessus parce que c'est pas tout à fait ça. Puis aujourd'hui aussi, à l'émission, je vais parler d'une cité maya qui a été découverte dans les dernières années, là, une nouvelle qui s'ajoute au grand patrimoine des cités mayas. Mais en fait, c'est celle de Valeriana. On l'a appelée comme ça. Et je vous donnerai des détails là-dessus. Mais pour commencer...
Bon, écoute, dans un instant, on va passer à ton sujet, mais je veux annoncer que moi, j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure d'entomophagie. Qu'est-ce que c'est que l'entomophagie? On va voir ça ensemble. Et puis, on va parler également du jour du souvenir. Vous savez qu'on a souligné le jour du souvenir tout récemment, hein, le 11 novembre à chaque année. C'est le jour du souvenir. Ben, c'est quoi le jour du souvenir? On célèbre. Disons qu'on souligne, ce serait peut-être le mot le plus approprié, on souligne le jour du souvenir d'une année à l'autre, mais on ne sait pas nécessairement d'où ça vient, pourquoi on fait ça. Alors, on va avoir une petite historique sur le jour du souvenir plus tard dans l'émission. Et ça, c'est d'ici la fin de l'émission. Mais d'abord, tu veux nous apprendre, toi, que l'intelligence artificielle, ça ne fait pas que répondre à nos questions du quotidien. Ça peut avoir des applications qui sont, disons, pas mal plus intéressantes que ça, si on peut dire.
Ben, il pourrait en avoir plein, hein, mais je ne sais pas si ça te surprend. C'est sûr que l'intelligence artificielle est comme controversée, hein, depuis l'apparition de ChatGPT, là, le fameux chatbot. Mais on a utilisé l'intelligence artificielle, attention, pour défaire des théories du complot. Pour faire changer d'idée les complotistes. Et puis, ça a donné des résultats convaincants. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, une expérience de laboratoire qui a été faite. Alors, j'y vais avec ça. On a utilisé le modèle de langage GPT, ChatGPT, pour contredire des thèses complotistes qui étaient infondées, puis l'efficacité est ressortie vraiment solide. On peut commencer par l'affaire d'un Boeing 747-8F dans le ciel des Pays-Bas. Il y avait eu une théorie conspirationniste qui avançait que certaines traînées blanches créées par les passages des avions étaient composées d'agents chimiques ou biologiques qu'on voulait délibérément en fait répandre en haute altitude, les agences gouvernementales qui auraient tramé ça pour des raisons dissimulées au grand public.
Les fameuses chemtrails là, dont on entend parler, c'est ça?
C'est ça. Donc, cette théorie-là, on pouvait croire que les traînées de condensation laissées dans le ciel étaient des produits chimiques, qu'on voulait empoisonner les populations. Ou il y en a d'autres théories du complot, on va parler de certaines, les Juifs qui contrôlent le monde, les protocoles des sages de Sion seraient la preuve de ça. Ou encore les attentats terroristes du 11 septembre 2001 qui auraient été une manipulation du complexe militaro-industriel américain. On en a entendu parler beaucoup, hein, que tout ça aurait été orchestré. Bon, et contre-argumenté, souvent quand on parle avec les gens de ces conspirations-là, ça donne très peu de résultats. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de contre-argumenter. Sur Facebook, c'est pire, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment moyen.
Oui, c'est sûr.
C'est ça, parce que souvent, le fait de contre-argumenter, ça fait partie intégrante du fameux complot, de ce qu'on dit qui est dans le complot. Mais là, je te parle de chercheurs du Massachusetts, de l'Institut de technologie, qui est à l'Université Cornell aux États-Unis, qui ont mis en avant une solution qui est très prometteuse. C'est d'utiliser ce fameux ChatGPT pour faire interagir les participants complotistes avec l'intelligence artificielle. Puis l'idée, c'est de voir si... quel effet ça va avoir, une interaction personnalisée? Parce que c'est une contradiction qui est non pas adressée globalement à tous les conspirationnistes qu'on fait, mais on y va vraiment d'une personne en particulier en temps réel. Et l'autre intérêt, c'est la capacité à accéder à une masse immense d'informations pour les ChatGPT. Donc, ça leur permet de réfuter des affirmations ou de les corriger, de pointer les fausses preuves exactement sur le discours de la personne. Donc, c'est vraiment personnalisé. Tous les éléments nécessaires sont là, donc, pour contredire un humain par rapport à ça. Alors, ça a fonctionné, en fait, 20 % des participants qui étaient très, très complotistes, là, 20 % donc un cinquième, finissaient par douter de leur propre conspiration à laquelle ils croyaient. Et on s'est rendu compte que ça a un effet durable. C'est pas juste tout de suite après la discussion avec l'intelligence artificielle que ça porte ses fruits. On leur a demandé plus tard, puis il y avait encore ce même doute. Ils revenaient pas à leur conspiration. Il y a eu 2190 personnes de sollicitées par cette enquête-là. Chacune a exposé donc une conspiration dont elle était convaincue dans un texte. On a fait écrire un texte pour parler de sa conspiration avec des arguments. Le texte a été envoyé donc dans l'intelligence artificielle, un modèle GPT-4 Turbo d'OpenAI. Et le but, c'était de résumer le texte au départ. Le participant a noté sur une échelle de 0 à 100 avant d'écouter le résumé, de lire le résumé. De 0 à 100, s'il était d'accord avec un premier résumé généré par l'intelligence artificielle, parce qu'il va y en avoir un. On va voir sa réaction après avoir discuté avec ChatGPT, puis avant. Donc, il lit le résumé premièrement. Excuse-moi pour t'avoir dit avant le résumé. Là, il lit le résumé. Il note 50 %, ça veut dire qu'on n'est pas sûr du résumé qui répond, puis 100 %, ça veut dire très, très d'accord avec le résumé. Puis à partir de là, c'est là qu'on a la conversation. Et l'intelligence artificielle a eu pour préalable comme instruction d'essayer d'être le plus persuasif possible, en puisant dans toutes les ressources qu'elle avait et en s'adaptant à l'interlocuteur, le complotiste en question, et à ses arguments. Alors, on devait renvoyer des faits authentiques, bien sûr, vérifiés, là. Donc, on a eu recours à un professionnel pour vérifier vraiment tout ce que ChatGPT donnait. Puis, on a aussi estimé qu'aucun des arguments poussés par GPT-4 Turbo n'avait de biais politique. Donc, on est resté quand même neutre par rapport à ça. Ça répondait aux attentes de l'expérience. Puis, après leurs échanges, les participants ont encore parlé de leur théorie du complot et 27,4% ont admis qu'il y avait plus de doutes qu'à l'origine, avec les réponses de l'intelligence artificielle. Il donnait une note donc de moins 50% et il était seulement 2,4% au départ à avoir noté moins de 50% le résumé fait par l'intelligence artificielle. Quand on a jasé avec, c'est monté à 27,4%. Des gens qui doutaient. Alors, on peut changer les idées des complotistes en discutant avec un chatbot. Puis, parmi les conspirations défendues, il y en a certaines, par contre, qui étaient vraies et bien documenté. Alors, on s'entendra que pour celle-là, ça n'a pas fonctionné, les faire changer d'idée. Comme par exemple le projet MK Ultra de la CIA sur la manipulation mentale ou le projet Echelon qui concernait la surveillance américaine des réseaux de télécommunications. Mais là, dans ce genre de situation-là, les participants, ils sortaient de l'expérience puis leur conviction était encore là parce que l'intelligence artificielle l'avait pratiquement renforcée. Mais dans le cas de théorie du complot qui était très ambigu, où le vrai se mêle à des conspirations sans gravité, là, les participants non plus changeaient pas de point de vue, mais c'est parce que ça c'était ni queue ni tête. Comme par exemple, là, l'affaire de la Terre plate, ben c'est bien dommage, mais l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire changer les conspirationnistes d'idées par rapport à celle-là parce que c'est trop farfelu. Là. Tout ce qu'on leur donne comme fait, de toute façon, que l'intelligence artificielle sortirait, ça les convainc pas. Donc, il y a des théories du complot comme ça qui sont plus dures d'approche. Mais la méthode a un effet sur des thèmes, comme par exemple l'assassinat du président John F. Kennedy, là, la COVID-19 ou même les Illuminati ou l'élection présidentielle américaine de 2020. C'est presque tout le monde qui ont changé d'avis, qui ont sorti de ces conspirations après avoir discuté avec l'intelligence artificielle. Puis une des limites de l'expérience, ben, c'est que ça s'adresse aussi à un public exclusivement américain, pour celle que je te parle. Donc, c'est sûr, ça peut changer. Là, il va y avoir des différences selon les contextes culturels, là, si on va utiliser ça ailleurs. Mais au moins, l'étude a le mérite de montrer que le conspirationnisme, ben, c'est pas une fatalité, hein? Puis une contre-argumentation, ben, c'est pas toujours contre-productif. On peut en arriver à quelque chose. Ben, c'est comme un peu si l'intelligence artificielle est championne en matière de défaire les théories du complot. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est pourquoi je le soulignais aujourd'hui.
Et l'avantage de l'intelligence artificielle entre vous et moi, c'est que vous aurez beau argumenter autant comme autant avec une intelligence artificielle, il y a assez peu de chances qu'elle finisse par se tanner, là, par se lasser. C'est pas comme nous autres, on argumente avec quelqu'un, à un moment donné, on va dire « OK, c'est correct, là, t'as ton point, garde ton point. » Mais avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir débattre autant comme autant. Donc, pas de problème stannera pas, là.
Elle a de la patience. Elle était vraiment capable d'arriver au bout de la chose.
Oui, c'est ça. Elle a vraiment, vraiment de la patience. Et puis, c'est aussi comme une encyclopédie à toute fin utile parce qu'elle va puiser dans un puits sans fond de données, d'informations à travers l'Internet. Donc, forcément, c'est un peu difficile de la contredire. Dans un tout petit instant, puisqu'on a terminé notre premier bloc, on va passer en entrevue, une entrevue donc que j'ai réalisée du côté de Québec avec Gary Ouellet. Il est le président de l'Alliance des radios communautaires du Québec. Pas du Québec, mais du Canada, devrais-je dire. Et on va parler de l'avenir de ce média, la radio communautaire. On va parler donc de l'avenir de la radio de façon générale. Donc, restez branchés. Et puis, on sera de retour un petit peu plus tard au cours de l'émission avec d'autres sujets, Sébastien et moi, pour l'émission « Peut contenir des infos ».
Restez en contact avec « Peut contenir des infos », abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Le 23 octobre dernier, les radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada se sont réunis pour leur Assemblée générale annuelle. Ça a été l'occasion pour ces radios-là de choisir un nouveau conseil d'administration et, en même temps, une nouvelle présidence. Au moment où on se parle, on est au jour de la radio. C'est un événement pan-canadien. C'est un événement qui réunit des radios communautaires d'un peu partout au pays. Et on a pensé profiter de l'occasion, à peu contenir des infos, pour discuter de l'avenir de la radio communautaire. Qu'est-ce qu'on voit pour ce médium? Comment il peut peut se projeter vers l'avenir. Et puis, on a la chance de recevoir avec nous le nouveau président de l'Alliance des radios communautaires du Canada, M. Gary Ouellet, qui est lui-même directeur d'une radio communautaire au Nouveau-Brunswick Sommet FM. Gary Ouellet, bonjour.
Bonjour, Simon, merci.
Fait plaisir. Gary Ouellet, d'abord, l'Alliance des radios communautaires du Canada pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est, cette organisation-là?
Ben, ça va être défini dans les prochains mois, Simon, parce qu'on est dans une restructuration, mais brièvement, ce que c'est l'Alliance des radios communautaires du Canada en ce moment, c'est surtout une représentativité des radios membres, les 27 radios membres, 28 radios au total, mais 27 membres, qui sont représentés au niveau du lobbyisme par l'Arc du Canada, mais qui ont aussi des services offerts aux membres, que ce soit au niveau des techniques, de la technique, la consultation, la mise en marche d'une radio, l'aide au niveau de la gouvernance, l'administration. L'Arc du Canada offre tous ces services-là. Aussi, il y a une programmation qui est quand même offerte aussi à travers l'Arc pour certaines radios qui ont un petit peu plus de difficulté à répondre aux exigences du CRTC. Donc, le mandat de l'Arc est vraiment d'offrir un support auprès des radios membres en situation minoritaire linguistique.
Ouais, c'est une grosse organisation. Pourquoi avoir voulu devenir président de cette organisation-là?
Ben, je pense que ça fait 4 ans que je suis au conseil d'administration. Je vois les choses évoluer quand même. Je vois l'Arc aller vers une direction. On a pris des décisions avec le conseil d'administration depuis quelques mois, à savoir une nouvelle direction générale qui est en poste, une équipe déjà expérimentée qui était sur place. Toi, Simon, qui fait partie de l'équipe aussi. Je voyais des belles choses à venir pour les prochains mois. Une nouvelle planification stratégique, de nouveaux défis. On a une pression auprès des gouvernements actuellement pour faciliter un petit peu le rapport avec les radios communautaires et le gouvernement et de mettre en action un petit peu les beaux mots qu'on a envers la radio communautaire, puis de dire comme c'est bien beau de dire les beaux mots envers la radio communautaire, mais maintenant c'est de passer aux actions et de vraiment financer, aider ces radios-là à avoir la représentation qu'on leur donne.
C'est pas facile dans l'univers médiatique actuel, on le sait, avec la compétition des GAFAM, entre autres choses, pour nommer seulement ceux-là, quoique il y a d'autres organisations qui sont assez grosses aussi dans notre propre pays.
Oui.
Pas facile pour les radios communautaires. Est-ce que c'est encore un modèle qui est, disons, devant toute cette grosse compétition-là, est-ce que c'est un modèle qui est encore, disons, j'allais dire un terme anglais, relevant, ou qui a encore sa place dans l'écosystème?
Justifié. Oui, c'est totalement justifié encore. Je pense que la radio communautaire a encore sa place. C'est le seul média très local près de cette population qui est jour pour jour. La radio communautaire, c'est pas comme malheureusement un journal, tu sais, que ses forces et ses faiblesses, mais on peut se retourner sur une scène, donner de l'information sur ce qui se passe dans notre communauté, être près de nos membres, nos gens, notre communauté, nos entreprises, nos organismes. Ils ont besoin de faire valoir un point, de annoncer une activité, de mettre en valeur une performance d'un jeune athlète de la région, d'un jeune artiste de la région, mais on est là, on est toujours prêt à faire véhiculer cette voix-là, d'offrir cette diversité sur nos ondes. La radio communautaire aussi, on est chanceux parce qu'on est vu un peu comme différent de la radio privée, on n'est pas pris dans des balises de commercialisation nécessairement, donc on a cette ouverture-là sur monsieur, madame, tout le monde qui peut venir à la radio puis parler de leur petite entreprise ou leur petite organisation de la fin de semaine, là, un petit marché qui se passe au centre communautaire, tout ça. Donc, toute cette beauté-là, elle existe grâce à la radio communautaire, grâce à des médias traditionnels. Et peut-être qu'on va le voir dans les GAFAM éventuellement, peut-être que des jeunes créateurs de contenu vont se diriger vers le communautaire. Peut-être, c'est peut-être ça aussi que la radio communautaire doit penser, doit rallier ces gens-là, puis en faire une force pour la radio communautaire, puis la faire évoluer, changer un peu l'image, la rendre un peu plus interpersonnelle, la rendre un peu plus intéressante pour la nouvelle génération. Mais c'est un travail de force, un travail de tous les membres. Et c'est pas seulement notre travail à l'Arc du Canada, c'est aussi le travail avec toutes les radios communautaires hors Canada, donc au Québec aussi, mais peut-être même internationalement. On sait pas, il y a des idées qui se passent à droite et à gauche, et même au niveau privé, il y a des idées, même Radio-Canada a des idées. Donc c'est vraiment de se mettre ensemble tous les médias, que ce soit la presse écrite ou encore les radios, puis trouver des solutions pour rendre alléchante notre média traditionnel.
C'est quoi dans tout cet univers-là, on va dire, les défis qui sont propres? Parce que tous les médias, évidemment, ont des défis à surmonter, il y a des étapes à franchir et tout ça. Mais pour le milieu des radios communautaires en particulier, ce serait quoi, selon vous, les défis tout particuliers que ces médias-là ont à rencontrer?
Personnellement, je pense qu'il y a 3 gros défis, gros facteurs qui jouent dans la balance actuellement, dans un virage vers le futur pour garder nos radios communautaires vivantes encore et performantes dans les futures années. Au niveau technique, C'est de toucher vraiment le bobo, de savoir qu'est-ce qui va être la nouvelle technologie, vers quoi les radios doivent se tourner, quelles nouvelles implantations doivent être faites au niveau de la structure et des techniques qu'ils ont sur place. Ça, c'est une chose qu'il va falloir vraiment évoluer, étudier et évoluer. Il faut mettre à jour toutes nos infrastructures à l'échelle de toutes nos radios membres, pour nous, au moins, nous autres, du côté de l'Arc du Canada. Ensuite, je pense que la finance, c'est toujours... Ce qui revient toujours, le financement des radios, faire comprendre justement au gouvernement, aux paliers gouvernementaux, que c'est bien beau de nous faire dire qu'on est beau, on est fin, on est tellement présent aux événements, puis on est une force dans la communauté, mais ça se répercute pas par des actions concrètes de financement par nos gouvernements, par nos députés, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une pression qu'il va falloir continuer à le faire de l'Arc du Canada, mais aussi de nos supports, de nos partenaires, que ce soit le consortium, le FCRC ou d'autres instances organisationnelles comme l'ARQ dans les jours de la radio actuellement. T'sais. Puis le troisième point, je pense que c'est vraiment au niveau de l'image. Donc de redorer le blason de la radio communautaire puis d'en faire une force alléchante pour la future génération, pour les générations qui sont sur les médias sociaux actuellement. Donc de faire peut-être une transition vers le numérique pour certaines radios communautaires, de toucher à ces multiplateformes et d'en faire une force alléchante pour des jeunes de la région, d'une communauté, qui se disent « Ben, je vais utiliser les outils de ma radio communautaire pour faire valoir mon image à moi et redorer, vice-versa, la radio communautaire de ma région. »
Gary Ouellet, vous êtes le président de l'Alliance des radios communautaires du Canada, qui représente des radios francophones en situation minoritaire. On se réunit ces jours-ci du côté de Québec avec l'Association des radiodiffuseurs du Québec pour un événement qui s'appelle les Jours de la radio. Pourquoi on assiste aux Jours de la radio, au juste?
Ben, l'ARQ vit des situations similaires. Aux radios hors Québec, en situation minoritaire linguistique. C'est sûr, certain que c'est pas facile pour aucune radio communautaire. Dans certains marchés, quand même, au Québec, on a l'impression que tout va bien, et ainsi de suite, parce que on est financé, on a ci, on a ça, on a accès à des programmes, accès à droite et à gauche. Mais ils ont quand même des réalités similaires. Le manque d'employabilité, le manque de participation communautaire, quelquefois, le manque de ressources financières, même. Ils ont des mauvaises années comme des bonnes, comme nos radios membres à l'Arc du Canada. On vient ici parce qu'on fait affaire avec des porte-parole, des gens qui viennent véhiculer des messages au niveau de la radio communautaire, qui viennent nous présenter des ateliers qui sont similaires aux nôtres, des nouvelles technologies qui sont présentées aussi au jour de la radio. Ça permet aussi de socialiser puis de faire des rencontres avec des gens de d'autres radios qui ont peut-être des similarités avec certains de nos membres. Puis ça crée des liens et ces liens-là peuvent perdurer par la suite et nous aider à grandir ensemble.
En conclusion, Gary Ouellet, pour votre présidence, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à votre mouvement de l'Alliance des radios communautaires?
On est en restructuration actuellement, donc Une bonne restructuration, facile, fluide, ça serait bien. Puis par la suite, une force pour nos membres, puis de faire en sorte qu'on est capable de représenter 27 membres, 28 radios, en forme, forte, près de leur communauté, puis que ça soit pas difficile d'aller voir ensuite les paliers gouvernementaux pour leur dire « Nous autres, on a un bon produit, maintenant c'est le temps ». De l'alimenter, ce produit-là.
Gary Ouellet, directeur général de Sommet FM dans la région du Nouveau-Brunswick, dans la région du Restigouche, oui. C'est bien ça, ouais. Oui. Et il est aussi le président nouvellement élu de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Gary Ouellet, merci beaucoup.
Merci, Simon.
Peut contenir des infos.
On a déjà complété deux quarts d'heure à cette émission-ci. On arrive à la moitié de l'émission. Nous allons, dans un tout petit instant, marquer un temps d'arrêt et vous dire que nous allons revenir de l'autre côté avec deux sujets, dont, entre autres choses, l'espérance de vie des chats. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'espérance de vie des chiens dans une émission précédente. Sébastien va nous parler cette fois-ci de l'espérance de vie des chats. Et nous aurons également l'occasion de vous parler du jour du souvenir, puisqu'on a souligné il n'y a pas tellement longtemps, le jour du souvenir. Mais qu'est-ce que c'est le jour du souvenir? On a tendance plus souvent qu'autrement à se souvenir. On sait pour quelle raison, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait ça? À quel endroit à travers la planète? Alors, on aura l'occasion de vous en parler dans un tout petit moment à l'émission Peut contenir des infos. Et n'oubliez pas, incidemment, que si ça vous tente de nous écouter en rattrapage d'une semaine à l'autre, vous pouvez le faire sur le site Internet officiel de l'Alliance des radios communautaires du Canada, au radiorfa.com. Radiorfa.com, descendez un peu dans la page d'accueil, vous allez nous trouver avec un beau lecteur audio pour nous écouter là en rattrapage. Sinon, sur le site dédié à nos radios membres, le nosradio.ca, N-O-S, radio, R-A-D-I-O-S, donc au pluriel, nosradio.ca, et vous allez sous la section balado pour retrouver d'une semaine à l'autre en rattrapage. L'émission peut contenir des infos. Pause et on revient. Restez branchés.
Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Peut contenir des infos, c'est encore pour une demi-heure. On est dans le bloc numéro 3 de cette émission. Et dans un tout petit instant, Sébastien, tu vas nous parler de l'espérance de vie des chats. C'est bien ça?
Oui, et la bonne façon de calculer leur âge humain. On m'avait mal informé par rapport à ça, moi étant petit. Et là, maintenant, je voulais savoir.
Parfait, ça, intéressant. Vous savez qu'il y a quelques jours, on a souligné le jour du souvenir. Hein? C'est une journée commémorative qui est importante au Canada. Ça se passe chaque année, le 11 novembre. Et je pensais que c'était important qu'on vous en reparle un petit peu, même si c'est passé depuis quelques jours, j'irais même jusqu'à dire pour plusieurs jours, parce que c'est une journée qui, malheureusement, ça tombe un petit peu dans l'oubli une fois que c'est terminé. Puis on ignore pas mal de choses sur le jour du souvenir. On sait qu'on porte le coquelicot, on sait qu'on souligne la perte tragique de milliers de vies humaines à travers les années dans certains grands conflits, mais c'est quoi le jour du souvenir? Pourquoi on l'a instauré? À quel endroit à travers le monde on souligne le jour du souvenir? On va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. D'abord, l'origine du jour du souvenir, hein, c'est une journée de commémoration qu'on souligne chaque année le... As-tu la réponse, Sébastien?
11 novembre.
Le 11 novembre, évidemment. Et à l'origine, on l'a appelé le jour de l'armistice. Donc, ça ne s'est pas toujours appelé le jour du souvenir. Ça s'est appelé l'armistice. C'est une date qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est arrivé le 11 novembre 1918 et c'est la raison pour laquelle on a décidé que cette journée-là, le jour de l'armistice, donc le 11 novembre 1918, ça allait être consacré justement à se souvenir de ces personnes-là qui ont perdu leur vie dans les combats. Donc, cette journée-là, à 11 heures du matin, oui, le 11 novembre 1918, toutes les hostilités ont cessé sur tous les fronts de la Première Guerre mondiale. Tout s'est arrêté. Il faut dire que quelques heures auparavant, il était comme 5h10, 5h15 à peu près du matin, on s'était réunis dans un wagon, wagon qui avait été spécialement aménagé pour l'état-major des Alliés. Et puis, pendant toute la nuit, on a dialogué, on a essayé de signer, on va dire, un pacte. Et vers 5h10, 5h15 du matin à peu près, comme je disais, on en est arrivé à la conclusion de ce conflit-là, si on veut, à la reddition des troupes allemandes. Et on a décrété que la fin des hostilités allait prendre effet à 11 heures cette journée-là. Là, vous allez me dire, pourquoi on signe à, on va dire, 5h10, 5h15 du matin, puis on attend à 11 heures pour la fin de la guerre? Bien, évidemment, il n'y avait pas d'Internet à cette époque-là. Hein. Les communications se faisaient plutôt lentement, donc pas nécessairement très, très rapidement comme aujourd'hui. Et pour que cette information-là soit bien disséminée partout sur les fronts, on a dit, bon, à 11 heures, ça va être la fin de la guerre. Et la guerre aura officiellement duré pas moins de combien de jours, selon toi?
C'est 4 ans, on va dire 1200, 1300 jours, là, quelque chose comme ça.
Ben, c'est ça, on n'est pas loin, là. Ça a duré 1561 jours de combat. C'est quand même assez, assez, j'allais dire, extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme.
Et quand l'armistice est arrivé, hein, quand c'est à ce moment où la guerre est finie, ça doit être incroyable. Le sentiment sur Terre, là, partout, les gens qui ont appris ça, ça devait être un beau moment.
Ben, l'euphorie, oui, mais en même temps, on n'a pas tellement appris de ça, là, on va dire, parce qu'à peu près, quoi, une vingtaine d'années plus tard, en 39-45, ben, on faisait un deuxième grand conflit, donc c'est vous dire. Hein?
Ouais.
C'est quoi la signification du jour du souvenir? Ben, c'est l'occasion de se remémorer, d'honorer tous les Canadiens et les Canadiennes qui ont servi, qui se sont sacrifiés pour notre pays, particulièrement ceux, évidemment, qui ont payé de leur propre vie pour que la nôtre soit un petit peu plus libre et un petit peu plus pacifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres guerres, qu'il n'y en aura pas d'autres, qu'il n'y en a pas d'ailleurs actuellement. On voit là, il y en a un petit peu partout à la surface du globe. Guerre en Ukraine, entre autres, guerre en Israël et tout ça. Mais ce n'est pas une journée. Il y a des gens qui disent que comment je dirais ça, c'est pour promouvoir, on va dire, les valeurs guerrières, c'est pour affirmer la suprématie des uns sur les autres, hein, la victoire des alliés, mais c'est pas ça. C'est pas ça, le jour du souvenir. C'est vraiment une commémoration. C'est vraiment une façon de se remémorer, si on veut, le sacrifice d'êtres humains. C'est un moment pour réfléchir, en outre, à la liberté, surtout au courage de ceux et celles qui ont défendu là, nos valeurs pendant les différents conflits armés. Parce qu'on a tendance à croire encore de nos jours que c'est strictement une fête qui est réservée à la Première ou encore à la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il y a des gens qui pensent que le jour du souvenir, c'est que pour ça. On a tendance à croire, parce que plus souvent qu'autrement dans les cérémonies, on nous montre des combattants, ou enfin d'anciens militaires, d'anciens soldats qui sont très, très âgés. On voit des gens, par exemple, qui ont 80, 90, même 100 ans à la télévision. Et là, on pense, ben c'est d'anciens combattants. Donc, c'est des gens qui forcément ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, le jour du souvenir, c'est pour commémorer le sacrifice de ceux qui ont fait d'autres guerres aussi par la suite. Qu'on pense à la guerre de Corée, par exemple. Il y a d'autres conflits comme celui-là, la guerre en Irak et tout ça. Donc, les gens qui sont allés dans ces conflits-là. Donc, peu importe la guerre, le jour du souvenir, c'est maintenant consacré à se souvenir justement de ces gens-là qui ont combattu là, dans différents conflits armés. Et c'est pas souligné seulement au Canada, le jour du souvenir. On a tendance à penser qu'il n'y a que le Canada qui souligne le jour du souvenir, mais c'est souligné dans d'autres pays. C'est le cas en outre du Commonwealth. Le Commonwealth, donc on le sait, là, c'est rattaché à la couronne britannique, si on peut dire. Donc l'Australie, par exemple, fait partie de ça ou fête le jour du souvenir. Mais c'est aussi quelque chose qu'on souligne dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Belize, les Bermudes, le Kenya. Il y a d'autres pays comme ça où, dans le monde, le 11 novembre, jour du souvenir, c'est une tradition depuis des années. Donc, c'est pas spécifiquement une commémoration qui est, on va dire, canadienne. Et je vais terminer avec un peu de symbolique. Si on veut, hein, le jour du souvenir, on a associé plusieurs symboles, comme le coquelicot, évidemment, et c'est devenu indissociable. Le coquelicot, c'est devenu le symbole officiel de la commémoration, ou en tout cas au pays, chez nous. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde, on porte le coquelicot. Mais là, vous allez vous dire, pourquoi le coquelicot? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial sur le coquelicot? C'est que, lors de la Première Guerre mondiale, les champs qui ont été dévastés par les bombes et les tranchées là, qui avaient été creusées par les combattants, ben, ça a comme contribué à faire pousser cette petite fleur rouge qui pousse en abondance dans les régions de la Flandre, particulièrement en Belgique. Et la symbolique de cette fleur-là, ben, elle est venue de là. On n'a pas pu ignorer la présence du coquelicot. Il y a des fleurs qui poussent aux quatre coins du globe, dont on ignore évidemment l'existence, mais il y a un poème qui a été écrit en 1915 par un soldat médecin canadien du nom de John McCree. Et dans ce poème-là, il parle du champ d'honneur, il parle entre autres choses du coquelicot, donc il était question de cette petite fleur-là dans son poème. Donc le coquelicot, la fleur rouge, est devenu, par la force des choses, une espèce de symbole qu'on a associé à ce conflit, à la Première Guerre mondiale. Tout le monde peut prendre part aux commémorations. Je vais conclure avec ça. Pas seulement que les militaires ou encore les proches des défunts. Vous n'avez pas participé cette année, ben l'an prochain, on n'a pas besoin nécessairement de se déplacer. Il a juste porté le coquelicot, prendre quelques secondes, un petit moment de réflexion aux alentours de 11h le 11 novembre. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on a pris part aux commémorations du jour du souvenir. Je trouvais ça important là qu'on en reparle parce que, comme je disais tantôt, plus souvent qu'autrement, ça arrive, oui, le 11 novembre, mais après ça, on arrête d'en parler, on ne sait plus trop ce qui se passe, puis on ne reparle pas de ça avant l'année prochaine. Mais les gens qui ont combattu pour notre liberté, notre paix mondiale, donc il ne faut pas les oublier. Alors c'est pour ça que j'ai pensé qu'on devait vous reparler un petit peu du jour du souvenir.
Oui.
Toi, Sébastien, es-tu capable en 5 minutes là, de nous parler de l'espérance de vie des chats?
Absolument. On y va maintenant avec cette tranche de vie. On avait parlé de celle des chiens, puis là, moi, j'ai perdu mon gros minet, Simon, récemment, à l'âge de 13 ans, puis je suis allé la faire pied, l'a attrapé un cancer, et puis je me demandais, est-ce que c'est vrai cette affaire-là? On s'est fait dire là que c'est x7, tu sais, l'âge des chats pour savoir l'âge humain. Je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est pas vrai, ça. On peut pas faire x7. C'est parce que le chat vieillit pas à la même vitesse tout au long de sa vie. On peut pas faire x7 à 1 an puis faire x7 à 10 ans. Ça donne pas la même chose, là. Donc, je vais te parler d'une chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre, Madame Charlotte de Mouzon, qui, elle, est consultante en comportement du chat. Et il y a aussi un autre spécialiste, un vétérinaire, Claude Beata, que j'ai lu, là, un spécialiste en psychiatrie animale aussi, et il est l'auteur du livre « La folie des chats ». Donc ça, vous pouvez le retrouver, ce livre-là, si ça vous intéresse, sur édition Odile Jacob, c'est sorti en 2022. Donc j'ai lu ça, puis j'apprends plein de choses, comme notamment Madame Charlotte de Mouzon, elle a dit que de 0 à 6 mois, un chat est considéré comme un chaton et poursuit son développement rapide jusqu'à sa maturité sexuelle qui est vers 7 mois. Donc de 0 à 7 mois, là, ça grandit vite, là. C'est même plus que x7. Ben oui, parce que lorsqu'on dit multiplier par 7 l'âge d'un chat pour connaître son âge humain, en fait, là, ce serait un mythe. Bon, si on cherche à faire le parallèle entre l'âge du chat et celui de l'humain, ben un chaton, on voit que ça vieillit plus rapidement que le chat adulte. Donc, si vous voulez là savoir à peu près votre chat et considérer quel âge en humain, je vais vous donner le truc. En fait, le vieillissement du chat n'est pas linéaire. Alors, on peut séquencer son cycle de vie. Il y aurait 6 étapes dans la vie d'un chat. Alors, chaton, pour ses 6 premiers mois, hein, durant cette période, donc, c'est là qu'il vieillit rapidement. Il poursuit sa croissance et son développement. Puis, à partir de 7 mois, quand je disais sa majorité sexuelle, il devient, on va dire, junior, jusqu'à ses 2 ans. Et c'est pendant cette période-là qu'il atteint sa taille adulte, qui est plus souvent autour d'un an. Puis, à partir de 2 ans, on considère qu'un chat aurait, en âge humain, l'équivalent de 24 ans. Donc, tu vois, pour les deux premières années, là, ça avance tellement vite qu'on peut faire x7, là, mais c'est plus que ça.
Donc, c'est pratiquement dire que, rendu à l'âge de quoi, 6-7 mois, il y a à peu près l'âge d'un adolescent humain. Il a quelque chose comme 14-15 ans, j'imagine, ou un enfant comme ça. Là.
C'est ça, ça va très, très, très vite, jusqu'à 2 ans.
Okay.
Puis quand un chat arrive à 2 ans, donc là, il atteindrait l'âge à peu près de 24 ans, un humain, donc jeune adulte. Et de 3 à 6 ans, il fait toute sa vie de jeune adulte. Quand il est en bonne santé, il est au top de sa forme. Entre 3 et 6 ans, un chat, sur le plan comportemental et physique aussi. Alors là, c'est le jeune adulte, environ là, de 24 ans à 35 ans, mettons. Entre 7 et 10 ans, par contre, là, il devient l'équivalent d'un humain entre 45 et 55 ans. Donc, c'est toutes des tranches à différencier. Donc, rappelez-vous que de 0 à 2 ans, là, il monte comme jusqu'à 24 ans d'âge humain. Entre 3 à 6 ans, il va se rendre jusqu'à 35 ans à peu près. Puis ensuite, de 6 à 7, là, tout ce qui est, il monte jusqu'à 45 ans. Puis entre 7 à 10, il monte jusqu'à 55 ans, l'âge d'un humain. À partir de 11 ans, ben c'est là qu'il est senior, comme une personne âgée de 70 ans. Donc, votre chat a l'équivalent d'une personne de 70 ans à 11 ans. Donc, tu vois, moi qui étais rendu à 13 ans, il s'en est vieux et puis c'est là plusieurs risques de maladies, cancer et tout ça, c'est arrivé. Et puis, beaucoup de maladies qui commencent à apparaître après 11 ans, c'est les chats. Chez les chats, ils deviennent moins flexibles aussi. Chat qui est un des animaux les plus flexibles. Et ensuite, sont considérés comme gériatriques à partir de 15 ans. Les chats sont nombreux à atteindre cet âge-là, par contre, sans montrer de signes de vieillissement. Donc, il y a des chats qui, particulièrement pour des raisons qu'on ignore, là, arrivent quand même plus vieux et ne montrent pas de signes de vieillesse. Ça arrive. Donc, vous êtes chanceux si ça vous arrive. Mais l'espérance de vie d'un chat maintenant, ben ça dépend de plusieurs facteurs. Un chat domestique, sais-tu à peu près combien de temps que ça vit, si tu dis...
Une dizaine d'années, j'imagine, quelque chose dans le genre.
Non, on dit même un peu plus un chat domestique entre 13 et 15. Donc, moi, mon chat qui est décédé dans son âge là, d'espérance de vie. Les chats qui vivent en extérieur ont plus de risques, par contre, bon, de se faire renverser par les voitures, tout ça, les bagarres, exposés à des maladies. Mais aujourd'hui, on voit des chats qui atteignent plus de 20 ans. Puis ça, c'est assez surprenant, mais ça arrive. Mais certaines races de chats sont connues pour avoir une espérance de vie un peu plus élevée, comme le Siamois, lui, l'espérance de vie entre 15 et 21 ans. Donc, c'est un des chats qui vit le plus longtemps, le Siamois, mais il y en a qui les aiment pas, hein, les Siamois, parce qu'ils ont l'air méchants. Ou des fois, ils sont un peu jaloux de leur maître. Ils ont juste un maître, puis ils deviennent un peu méchants avec les enfants. Donc, ça, c'est des chats qui sont pas toujours aimés. Mais en général, des chats de race ont une espérance de vie inférieure de 4 ans à l'espérance de vie des chats européens. Les chats européens, c'est un peu un brassage génétique plus diversifié. Et ça les protège de certaines maladies. C'est une race de chats là, un peu bâtarde, qu'on va dire, chats européens. Puis la stérilisation, c'est un moyen de protéger contre certaines maladies qui n'ont pas encore de traitement, comme le FIV, qui est le sida du chat. Ça se transmet par des voies sexuelles ou sanguines. Alors, quand on fait stériliser le chat, ça aide. Et ça permet de réduire les comportements sexuels, les bagarres entre les chats mâles. Et l'eau, C'est primordial pour les chats pour éviter les problèmes aux reins, les problèmes rénaux. Alors, les chats ne boivent pas beaucoup. Et s'ils ont accès à de la nourriture humide, des fois, ils boivent même pas du tout. Alors, vraiment, donnez à votre chat domestique en permanence de l'eau fraîche, fréquemment changée, et vous allez augmenter son espérance de vie. Ben oui, ça fait le tour un peu.
Merci pour les conseils. Merci, Sébastien, pour ces observations sur quelque chose qui était un mythe tenace et qu'on vient un petit peu déboulonner avec la façon de compter l'espérance de vie des chats. Dans quelques secondes, au retour de la pause, on va parler d'une cité Maya. Cité Maya dont on vient de faire la découverte, ou enfin, ça fait pas tellement longtemps de ça. C'est l'émission peut contenir des infos et on est encore avec vous autres pour une quinzaine de minutes environ.
Peut contenir des infos.
OK, on pensait entamer ce quatrième et dernier bloc de l'émission avec une cité Maya dont on a fait les découvertes il n'y a pas tellement longtemps, mais merci Sébastien de me permettre de vous parler un tout petit peu d'entomophagie. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'entomophagie. L'entomophagie, c'est de manger des insectes. As-tu déjà mangé des insectes, Sébastien? Non.
Ben, hein? Non.
Moi non plus, j'ai jamais mangé d'insectes. Mais dans de nombreuses cultures, les insectes sont considérés comme un mets délicat, riche en protéines et qu'on intègre dans l'alimentation courante. On estime que peut-être qu'un jour, l'entomophagie pourrait nous aider dans une certaine mesure à régler un peu, sinon la faim dans le monde, en tout cas régler nos problèmes liés, par exemple, à l'élevage du bétail et tout ça, donc la surutilisation des ressources.
Sauver la planète en mangeant des insectes, là, je l'ai entendu souvent, celle-là, je ne suis pas convaincu, mais c'est peut-être.
Et voilà. Ben, ça reste à voir, là, mais il faut qu'on commence par me faire la démonstration parce que je suis pas encore tout à fait convaincu, mais en tout cas. En Asie, par exemple, comme en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Chine ou encore le Japon, on dit que les insectes sont souvent vendus dans les marchés publics comme des collations. On les retrouve également dans certains plats traditionnels. En Afrique, les gens dans de nombreux pays de ce continent consomment des insectes. On parle de chenilles, de termites, de criquets également, qui sont particulièrement appréciés. L'Amérique latine, Mexique, Brésil, d'autres pays également, on dit que les larves de... les vers de maguey, je pense que je le prononce correctement, on appelle communément en tout cas les vers d'agave. Les fourmis sont aussi parmi les insectes qu'on consomme. Et en Océanie, c'est chez les aborigènes d'Australie particulièrement, on consomme des insectes depuis des millénaires. Ça a l'air que les larves de coléoptères et les fourmis sont parmi les plus populaires. Et ce qu'on peut remarquer, et ça c'est de façon assez générale, ceux qui consomment, disons, le moins d'insectes dans le monde, ce sont, sans grande surprise, les pays occidentaux, comme les nôtres, les pays industrialisés. On n'a pas encore vraiment développé la culture pour l'entomophagie. On privilégie, entre autres, l'élevage du soit le bétail ou encore la volaille et tout ça. Et pourquoi on mange des insectes, selon toi? Qu'est-ce qui nous amène à manger des insectes?
Ben, je sais pas. Moi, ce serait par nécessité. Mais là, les gens que tu nous nommes dans des pays comme ça où ils en mangent, c'est pas par nécessité. On dirait que c'est par choix, par goût qu'ils aiment ça. Ils en sont de fervents admirateurs. Donc, je trouve ça assez spécial.
Ouais, on dit que très souvent, la nécessité est la mère de l'invention. Mais effectivement, il y a un petit peu de ça à certains endroits. Hein. On a des insectes à portée de la main, donc on en consomme. Mais ça a l'air que les insectes sont d'une part riches en protéines, également en gras insaturés, en vitamines et en minéraux. Donc, c'est une bonne source d'alimentation pour bien des gens, nonobstant le fait qu'il n'y ait pas grand-chose nécessairement, ou enfin, il n'y ait pas de revenus pour s'acheter de la bouffe, comme on dit. Ils ont quand même une ressource assez proche, les insectes. Et l'élevage d'insectes, il faut dire aussi que ça consomme beaucoup moins de ressources, beaucoup moins d'eau, par exemple, de céréales, comme c'est le cas avec l'élevage du bétail. Ça produit également pas mal moins de gaz à effet de serre. Maintenant, vous allez vous demander... c'est quoi les types d'insectes qu'on consomme? Bon, j'avouerai, il y en a quand même beaucoup. Je ne vais pas m'attarder à vous parler de tous les insectes qu'on consomme, mais parce que les variétés sont quand même assez immenses et ça dépend beaucoup des régions, mais je vais y aller avec, on va dire, les principaux. Les chenilles. Apparemment, les chenilles sont vraiment très appréciées. Je l'ai dit tantôt, en Afrique, en Amérique latine, ça a l'air qu'on en mange pas mal. Plus répandues à l'échelle mondiale, criquets, sauterelles sont parmi les plus consommés dans de nombreuses régions du monde. En Amérique du Nord, on a vu, par exemple, des sauterelles grillées qu'on vend dans espèce de petit sachet, là, un peu comme une collation.
Oui, oui.
C'est spécial, hein? Je ne suis pas encore convaincu. Peut-être qu'un jour, en tout cas, on verra.
C'est le choc culturel, hein? C'est ça. C'est... Nous, on n'est pas habitués. Il y a des gens pour qui c'est tout à fait normal, mais le choc est fort ici en Occident.
Ben, c'est ça, hein? On n'a pas été habitués à ça chez nous, hein? C'est culturellement parlant. Les termites sont une source de protéines importante en Afrique, tandis qu'on raffole des fourmis, tout particulièrement en Amérique latine et en Asie. Et enfin, si on regarde chez nous, on commence à manger des insectes, enfin de plus en plus, et ce sont très souvent, imaginez-vous, les vers de farine qui deviennent, les vers de farine qui deviennent de plus en plus populaires en Occident. On s'en sert très souvent pour fabriquer des farines dont on va se servir pour préparer divers aliments transformés, des pâtes à pizza, par exemple, avec des vers de farine et tout ça. Et puis, on va faire aussi des barres protéinées. Alors, c'est ça. On sèche les vers de farine et on les broie et on fait une espèce de farine avec ça. Donc, ça passe mieux. Là, toi, tu vas nous parler d'une cité maya dont on a fait les découvertes il y a quand même quelques années, mais pas tant que ça, là.
Non, c'est ça. Cité maya de Valeriana. Je sais pas si tu as entendu parler de celle-là. Une étude qui est parue dans la revue Antiquité, Antiquity, en tout cas en anglais, qui révèle plus de 6000 structures nouvelles, puis une cité maya dans l'état du Campeche au Mexique. Donc, on l'a nommée Valeriana. C'est au cœur d'une forêt tropicale composée d'une architecture monumentale, des grosses terrasses agricoles. C'est impressionnant tout ce qu'on trouve. Et puis, ça date d'il y a longtemps, là, bien sûr, que ça a été habité, là. Mais c'est une zone qui a pas de route, pas de chemin, au cœur de la forêt de Campeche au Mexique. Et sur 122 km², les chercheurs ont découvert près de 6600 structures. Donc, on en trouve encore et encore. C'est comme pas fini, là, cette affaire de tribu maya qui vivait là. Il y a un chercheur, Luke Old Thomas, de l'Université de Tulane à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, qui a décidé de se lancer dans cette zone-là qui avait été peu étudiée, le centre du Campeche au Mexique. Et il a profité des données qui dataient de 2013, puis non pas au départ à visée archéologique, mais plutôt environnementale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans le cadre du projet Alianza, qui a été conduit par l'Organisation internationale de conservation de la nature, et le but premier, c'était de mesurer et de surveiller le carbone dans les forêts du Yucatan. Et c'est intéressant que ce soit environnemental, parce que ça, c'est des études plus faciles d'accès, hein, pour tous les chercheurs et tout ça. L'étude a été découpée en 3 blocs, avec un type de paysage très différent au sein de chaque fenêtre d'analyse. Puis la cité nouvelle de Valeriana se trouve dans le bloc 2, avec des places, des édifices, des terrasses agricoles, comme je le disais, sur des pentes, des collines où le site est implanté. Puis la route nord-sud qui relie la ville moderne de Xipuyil, au nord du Yucatan, passe à proximité de ce site-là. Donc, une architecture monumentale typique. Il y a des palais, des pyramides là-dedans, des chaussées, réservoirs, un terrain de jeu de balles. Et le bloc 1 serait un paysage, lui, périurbain, plutôt dense, un mélange de villes et de villages. Puis le bloc 3, lui, a été plus difficile à analyser, une zone rurale peu connue, peu habitée. Mais la fameuse cité de Valeriana est dans le bloc 2. Puis les données ont été séparées en 3 blocs, bien, chacune avec un type de paysage différent. Donc, on a vraiment le type urbain, le périurbain et le rural pour cette cité maya. Puis l'étude s'appuie sur la technologie du LIDAR. Ça, tu connais ça? C'est la technologie LIDAR.
Moi, c'est ma mi-chemin entre le radar et la lumière, là. Je ne sais pas trop si c'est la même affaire, là, mais c'est ça, je pense.
Oui, c'est une technologie radar. Ça permet de cartographier précisément par laser la végétation, les bâtiments ou les vestiges au sol, tout ça. Puis d'habitude, les relevés faits en archéologie sont centrés sur des sites connus. Alors là, c'est vraiment intéressant d'avoir un autre regard avec ce découpage-là qui a été fait en 3 blocs. Puis le fait que ça soit fait par des environnementalistes, je te le disais, parce que des données environnementales, c'est une vraie aubaine. C'est facile d'y accéder gratuitement pour les chercheurs. Alors, les budgets des projets archéologiques sont souvent serrés. Mais un petit défaut pour les données environnementales d'habitude, c'est qu'elles sont moins détaillées, moins précises. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a de quoi sur les cités mayas environnementales, mais avec la technologie LIDAR. Donc là, ça, c'est un peu nouveau. Et ils ont pu manquer des plateformes, des fois, qui pouvaient faire 20-30 cm de haut, à peine visibles sur des relevés, mais qui étaient analysables si on disposait des traitements de l'image. Mais là, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus détaillé. Puis en 2018, le chercheur Philippe Nondeo avait participé, lui, à une étude sur le site de Nachun au Guatemala. La cartographie LIDAR avait donc révélé à ce moment-là plus de 12 000 édifices contre 900 seulement avant l'utilisation de détection laser. Alors, lorsqu'on arrive avec LIDAR, là, ça amène des résultats incroyables. On trouve qu'il y en a beaucoup. L'étude est incluse dans une recherche qui incluait 10 autres sites qui avaient répertorié 60 000 édifices. Ça avait révolutionné la manière d'appréhender les sites Maya. Et les images montraient une grande densité de population, en plus en périphérie lointaine des centres où il y a des gros monuments, dans des zones qu'on considérait comme rurales, inhospitalières. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait du monde puis des édifices qui vivaient là. Un aménagement qui comportait des dizaines de milliers de terrasses et des champs surélevés sur des centaines de kilomètres carrés. Vraiment impressionnant. Alors, les archéologues, là, ils sont fiers de toutes ces études. L'étude actuelle, là, se fonde sur une forte densité de peuplement, mais on prouve qu'elle existe sur des zones et des sites inconnus. Donc, Valeriana pourrait peut-être faire partie des faubourgs d'une cité plus vaste parce qu'il y a un site qui est tout proche de où est-ce qu'on a trouvé Valeriana, qui est du nom de Pehar Esnada. Alors, peu importe là, de savoir si Valeriana, c'est une cité ou non, ou un secteur nouveau, c'est-à-dire de Pehar Esnada ou non, là, si ça fait partie, ben on le sait pas trop, mais ça reste une découverte de taille moyenne, grande densité de structure. Puis, en dehors des effets de cette annonce-là, le principal enseignement, lorsqu'on a une étude comme ça, ça réside dans la prise de conscience de notre ignorance sur la partie qui est encore peu explorée du centre du Yucatan, entre autres. Alors, des cités mayas, là, c'est pas rare, il y en a vraiment beaucoup et il en reste énormément à découvrir. Ça, c'en était une preuve dans les dernières années.
C'est quand même assez singulier, quand on y pense, de s'apercevoir après tant d'années que, dans une certaine mesure, ces sociétés-là étaient organisées à toute fin utile, un petit peu comme les nôtres, là, oui. Avec des grandes cités où les gens étaient regroupés ensemble, puis il y avait même, et c'est ce que je tends à comprendre à la lueur de tes explications, il y avait même des banlieues, là, des petits faubourgs oui. aux alentours et tout ça. Là.
Oui, ça en allait loin.
C'est quand même spécial, là. C'est un peu comme, à toute fin utile, notre organisation urbaine aujourd'hui avec les grands centres urbains autour desquels il y a des petites banlieues, des gens qui habitent là. Waouh, hey, c'est quand même une grosse découverte. Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir que ça a été fait, cette découverte-là, dans un contexte, comme tu disais, environnemental, plutôt que d'avoir fait ça dans un contexte où c'était dédié spécifiquement à de l'archéologie. Là. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, puis ça date de centaines d'années. Hein, donc, c'est ça. C'est heureux. Je suis heureux de voir qu'on découvre encore des choses comme ça. Moi, j'aurais aimé être archéologue. Je pense que toi aussi.
Ah, moi, j'aurais trippé. Ah, j'aurais trippé d'être archéologue. Là. Je ne sais pas si j'aurais fait nécessairement Indiana Jones de ma personne, mais j'aurais en tout cas très certainement aimé fouiller là, justement des grottes historiques ou en fait des espèces de grandes tours et des palais là, comme on trouvait à l'époque. C'est wow, OK, ouais. OK, merci, Sébastien. Ça vient clore cette émission-là. Ça complète ce sujet, j'imagine?
Ben oui. On peut dire qu'il y avait des millions de Mayens, de Mayas qui ont vécu dans des grandes cités. J'ai trouvé ça assez impressionnant.
C'est la conclusion de l'émission. On vous rappelle que d'une semaine à l'autre, vous pouvez évidemment nous écouter à la radio sur votre station membre de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Et si vous en voulez une double ration, si vous en voulez davantage, eh bien, la semaine suivante, vous allez nous retrouver en rattrapage sur radio-rfa.com, sur la page d'accueil, sinon dans la section balado de nosradios.ca, qui est un site web sur lequel vous allez pouvoir écouter nos stations de radio membres. Et en conclusion, avant de fermer l'émission, je tiens à remercier le Fonds canadien de la radio communautaire et Patrimoine canadien, qui sont deux importants contributeurs à notre programmation, enfin à notre, on va dire, budget d'opération, et sans lesquels, évidemment, qu'une émission comme celle-ci n'existerait pas. On vous souhaite de passer une bonne semaine, Sébastien.
Absolument. Déjà la semaine prochaine, Simon, hâte de te retrouver.
Et à vous autres aussi, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là et on vous souhaite une bonne semaine. Salut, merci.